Transistor.
À l'école, l'élève doit être absolument protégé.
Transistor.
Web.
Bienvenue à toutes et à tous sur les ondes d'Indifférence, l'émission qui traite des handicaps et différences invisibles à travers le vécu d'étudiantes et d'étudiants. Dans le langage courant, quand on parle de handicap, c'est souvent l'image d'une personne en fauteuil roulant qui nous vient à l'esprit. Dans la réalité, 80% des handicaps sont ce qu'on appelle des handicaps invisibles, autrement dit, des handicaps qui ne se lisent pas sur la figure, qui ne se devinent pas au premier regard. Et c'est justement de ces handicaps-là dont on va parler. Aujourd'hui, on accueille Léna, en master de philosophie à l'ENS de Lyon, qui était diagnostiquée avec un trouble dépressif. Bonjour Léna.
Bonjour.
Alors, d'après la CIM-11, qui est la classification internationale des maladies, le trouble dépressif, c'est un trouble qui entraîne un abaissement de l'humeur, une réduction de l'énergie et une diminution de l'activité, mais également une altération de la capacité à éprouver du plaisir, une perte d'intérêt, une diminution de l'aptitude à se concentrer, associée assez couramment à une fatigue importante. En plus, il y a souvent des troubles du sommeil et une perte de l'appétit qui vont avec. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que le trouble dépressif a trois niveaux d'intensité, un niveau léger, moyen et sévère, ce qui forcément n'entraîne pas les mêmes difficultés. Donc là, ce que je viens de dire, c'est la définition scientifique. Comment toi, tu expliquerais le trouble dépressif avec tes mots à des gens qui n'y connaissent rien ou presque rien ?
Bah, en fait, je pense que ça résume très bien le trouble dépressif. Je pense que ce qui est important et ce qui caractérise vraiment le trouble dépressif, en tout cas de la manière dont moi je le vis, c'est un peu une sorte de diminution de la force vitale. C'est une sorte de fatigue, mais ce n'est pas une fatigue qui est juste physique, parce qu'on peut être très excité, on peut dormir, avoir des troubles du sommeil et dormir 3 heures par nuit et quand même être très excité pendant la journée et faire plein de trucs. C'est vraiment une fatigue qui est psychologique et c'est vraiment la capacité à se mettre en mouvement, la capacité à faire des choses, à juste avoir envie de faire des choses qui est vraiment affectée. Et c'est vraiment, je pense que tout se résume à la motivation, à la capacité à pouvoir se lever le matin, tout simplement. Je pense que c'est comme ça que je résumerais, même si il y a énormément de symptômes, ça dépend des gens, ça dépend du stade de la dépression, et évidemment ça dépend si on est sous traitement, mais je pense que c'est vraiment ça, je pense que c'est une question de fatigue extrême en fait.
Et avant de continuer, je voudrais juste revenir encore une fois sur la question de la définition. Comment toi tu te considères ? Est-ce que tu te considères handicapée, malade, différente ? Quel mot tu poses ?
Bah, en fait c'est marrant parce que avant de venir ici, d'en parler ici, dans le cadre d'une émission qui avait le mot handicap, j'avais jamais vraiment utilisé le mot handicap pour décrire ça, mais en fait c'est vrai que moi la vision que j'ai d'un handicap c'est surtout quelque chose qui te tire vers l'arrière, quelque chose qui a un obstacle, et du coup je me considère pas malade parce que je suis pas tous les jours à me dire oh là là je suis malade, c'est dur, etc. Par contre, je sais pas trop comment dire, mais en fait, à force de l'avoir, tu sais qu'il y a quelque chose qui est en plus, que les autres n'ont pas. Le trouble, je pense que le trouble, c'est plus pertinent, parce que le trouble, c'est quelque chose qui t'altère. Et moi, c'est surtout ça. Ce serait plutôt un trouble, ce serait un handicap, en fait, je pense. Un handicap dans le sens où je mets pas le mot maladie, parce que j'ai l'impression que si je le mets, je vais plus me morfondre. Mais le mot handicap, ça donne vraiment cette image de quelque chose qui est un obstacle pour moi et qui fait que les choses sont plus difficiles que pour quelqu'un qui n'est pas affecté par ça, quoi.
Mais ce qui est intéressant, c'est que là, j'imagine que pour la plupart des personnes, quand on parle de maladie, de handicap, on imagine plutôt quelque chose qu'on aurait en moins. Toi, tu parles de quelque chose qu'on aurait en plus. Est-ce que tu pourrais développer là-dessus ?
Ouais, je pense. Enfin, encore une fois, comme j'ai parlé de fatigue, j'ai parlé d'obstacles, c'est vraiment. En fait, c'est un peu comme. Enfin, pour moi, c'est vraiment un poids. C'est pour ça que pour moi, c'est quelque chose en plus, parce que c'est un poids, c'est quelque chose qui se rajoute. C'est quelque chose qui fait que parfois, j'ai envie de faire des choses, j'ai des projets, j'ai des projets créatifs, j'ai des projets intellectuels au niveau des études, etc. Et en fait, je sais d'avance que ça va être difficile, même si c'est sûrement difficile pour tout le monde, mais moi, je sais que je vais avoir en plus cette difficulté de devoir surmonter la possible envie de ne pas vraiment le faire. C'est pas très clair dit comme ça, mais en plus de devoir vraiment se motiver pour élaborer tel projet, pour se donner les moyens de le faire, il faut en plus prendre en compte le fait que pendant cette trajectoire, il va y avoir le moment où on va être vraiment découragé pour vraiment aucune raison, où en plus on va être angoissé parce qu'avec le trouble dépressif, t'as de l'angoisse aussi. Et du coup, pour moi, c'est vrai que c'est quelque chose en plus parce que, en fait, c'est un obstacle de plus. Enfin, je veux dire, tout le monde a des obstacles. Quand, par exemple, enfin, je prends l'exemple du projet parce que c'est vraiment le truc où tu as envie d'effectuer quelque chose. Tout le monde a des obstacles. Quand les gens veulent lancer des projets, c'est normal. Tu as des obstacles financiers, tu as des obstacles logistiques, enfin, tu as de tout, des obstacles de temps. Mais quand tu as un trouble dépressif, tu as cet obstacle de passer toi-même, en fait, l'obstacle. C'est toi-même qui, en fait, va avoir une petite voix qui va te dire « Non, mais là, t'as pas assez d'énergie pour le faire. Non, mais il y a ça, tu peux pas le faire. » Et pour moi, c'est vraiment quelque chose en plus. Et j'avais jamais réfléchi à la différence entre quelque chose en moins ou en plus. Je vois pas trop... Si, je vois un peu comment on pourrait dire que le trouble dépressif, c'est avoir quelque chose de moins, dans le sens où c'est avoir moins d'énergie. Mais pour moi, ce moins d'énergie, c'est surtout quelque chose de plus, dans le sens où c'est quelque chose de plus à surmonter, en fait. C'est un peu paradoxal, mais voilà.
Et je voulais aussi revenir sur la question du diagnostic, parce que, en fait, mine de rien, dans les handicaps invisibles, c'est quand même quelque chose qui est très important. Ça fait combien de temps que tu as été diagnostiquée ?
Alors, au niveau médical officiel, je suis diagnostiquée depuis mai 2020, depuis la fin du premier confinement.
Est-ce que tu pourrais raconter comment ça s'est passé ?
Ok. Alors, du coup, je pense qu'il faut que je le précise avant, même si je pense qu'on va en parler après. Même si j'ai été diagnostiquée, donc ça fait à l'heure où je parle, ça fait un an et demi à peu près. Moi, ça fait, on m'a pas dit depuis quand je l'étais, parce que je pense que ça remonte à trop loin. Moi, je pense que je le suis. Là, j'ai 22 ans. Je pense que je le suis depuis que j'ai 12 ans. Mais le diagnostic officiel, je l'ai eu qu'à 21 ans, parce qu'en fait, pendant plusieurs années, j'ai eu plusieurs obstacles qui se sont accumulés, qui ont fait que je ne suis pas allée, parce que le diagnostic se fait par un psychiatre ou une psychiatre, je ne suis pas allée voir un psychiatre ou une psychiatre pour vraiment avoir le papier, entre guillemets, officiel qui me disait, voilà, trouble dépressif. Pourquoi ? Parce que, et c'est ça qui est dur avec le trouble dépressif, c'est que parmi les symptômes, bah, comme il y a le manque d'énergie, il y a aussi ce manque d'énergie pour se prendre soin de soi-même. Donc en fait, il y a aussi cette sorte de procrastination qui est de dire « Ok, je m'en occuperai plus tard ». Et même si je savais, je ne crois pas à l'autodiagnostic, mais je savais quand même que je l'étais, je ne suis pas allée voir de médecin avant la fin du premier confinement, parce qu'en fait, pendant le premier confinement, comme plein de gens, ça s'est passé extrêmement mal, beaucoup d'angoisse, enfin beaucoup de choses. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis retrouvée dans une situation où mentalement, c'était juste plus possible. Et soit je faisais quelque chose pour aller mieux, soit bah, ça allait vraiment être difficile pour moi, quoi. Et donc, j'ai eu de la chance à ce moment-là d'être entourée par des personnes qui, même si c'était indirectement, m'ont aussi donné l'énergie suffisante pour pouvoir prendre rendez-vous tout simplement dans un hôpital, voir une psychiatre et que la psychiatre après fasse son diagnostic. Parce qu'en fait, mon but à moi, c'était aussi... en fait, pendant le premier confinement, moi, j'étais en train de préparer le concours de l'ANES. Donc c'était parce que j'ai cubé, donc c'était mon année de carré. Je savais que j'allais pas l'avoir, mais en fait, et je savais que j'allais cuber, et je savais aussi que si je cubais, je pouvais plus être dans cet état-là, parce que ça allait servir à rien, en fait. Et du coup, je me suis dit, ok, ça fait des années que tu sais que t'es dépressif, qu'il faut que tu prennes un traitement. Ce concours, tu le veux vraiment, sauf que pour l'avoir, il faut que tu sois aidé. Et là, je me suis dit, soit je me fais aider et j'ai des chances d'avoir ce concours, même s'il est extrêmement difficile, mais j'ai des chances. Soit bah, tu laisses tomber. Et là, je me suis dit non, je ne vais pas laisser tomber. Je vais aller voir quelqu'un. Cette personne va m'aider. Ça va m'aller mieux. Et c'est ça aussi qui m'a donné cette énergie. Le concours, en fait. Et le fait que bah, pendant le confinement, quand même, c'était quand même assez horrible. Et ça m'a donné envie de me dire... Enfin, ça m'a donné envie de, bah, de changer les choses, quoi. Voilà.
Et du coup, pour en venir au moment précis où tu as eu le diagnostic, c'est quoi la première chose qui t'est passée par la tête quand tu as eu ce diagnostic-là, de trouble dépressif, quand le mot a été posé ?
Alors, il y a deux choses qui me sont passées par la tête. C'est d'abord, je sais, parce que je le savais, enfin voilà. Et la deuxième, c'était ouf, ça y est, j'ai mon diagnostic, je vais pouvoir avoir tout ce qui vient... tous les privilèges, entre guillemets, ce qui est assez paradoxal, mais les privilèges qui viennent avec un diagnostic, c'est-à-dire le traitement médical. Parce que mon but à moi, c'était d'avoir des antidépresseurs, en fait. même s'il y a énormément de choses à dire sur les médicaments, sur les effets secondaires, machin, sur l'addiction aussi surtout. Moi, je pouvais pas continuer. J'avais essayé plein de choses. Je pouvais pas continuer sans médicaments. Et là, je me suis dit, ok, c'est la première étape pour que je sois traitée et donc pour que je sois soignée. Donc, même si c'est bizarre quand c'est quelqu'un d'autre qui te le dit, parce que moi j'ai énormément intériorisé ça, j'en ai vraiment pas beaucoup parlé, même si ça fait très longtemps que je le suis, il y a beaucoup de gens de ma famille qui le savent pas, j'ai beaucoup d'amis qui le savent pas. Quand c'est quelqu'un d'autre qui te le dit, surtout quand c'est un professionnel, donc t'as quand même cette distance, cette froideur, pour quelque chose que la personne vocalise alors que c'est extrêmement intime, quelque chose qui est extériorisé alors que c'est quelque chose que tu portes en toi depuis très longtemps, c'est quand même émouvant. C'est très émouvant. Et en fait, mais moi c'était plutôt positif pour moi. C'était plutôt du soulagement en fait. C'était un poids qui s'enlevait. C'était une des premières étapes pour enlever ce poids justement.
Et donc tu dis que le trouble dépressif a fait que t'es pas forcément allé consulter d'autres psychologues ou psychiatres avant et que t'es passé par cette étape-là qui est plus ou moins contestée mais qui est l'autodiagnostic. Est-ce que avant d'arriver à cette autodiagnostic de trouble dépressif, t'es passé par d'autres autodiagnostics, d'autres troubles qui auraient pu te correspondre avec lesquels t'avais des doutes?
Alors, ça c'est hyper intéressant comme question parce que c'est vrai que moi, alors c'est rigolo parce que l'autodiagnostic, en fait, moi, enfin, je veux dire, je fais de la philo, en plus je fais de l'épistémologie. Moi, l'autodiagnostic, je trouve que c'est un truc épistémologiquement qui est absolument aberrant. Enfin, ça veut pas dire que... Enfin, je veux dire, pardon, c'est... Je voulais pas dire ça de manière violente. Évidemment, on peut se renseigner, savoir que tel trouble correspond à tel symptôme. Et en fait, c'est ce que j'ai fait, donc je suis un peu de mauvaise foi quand je dis ça. Mais je crois, dans le sens... Pour moi, l'autodiagnostic n'aura jamais une valeur scientifique. Mais par contre, en fait, j'ai passé mon adolescence à un peu me renseigner sur plein de maladies mentales différentes. Plein de troubles mentaux et c'est vrai qu'à chaque fois que j'en trouvais un où il y avait deux ou trois symptômes qui correspondaient à ce que j'avais, je me disais ah bah ça y est, je suis ça, je suis ci, en plus j'ai des personnes de ma famille, ma grand-mère par exemple qui était aussi atteinte d'un trouble mental et donc je commençais à m'inventer des choses en me disant ah mais du coup ma grand-mère elle avait ça donc ça se trouve c'est héréditaire alors que je suis même pas sûre que ce trouble mental soit héréditaire mais bref, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de fois où je me suis dit ah je suis sûre j'ai ça. Mais en fait, au final, quand je me suis fait diagnostiquer, on m'a juste, entre guillemets, diagnostiqué un trouble dépressif. Et maintenant que j'ai un peu grandi, que j'ai pris un peu de recul, je m'avance plus du tout sur est-ce que je suis ça, 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 parce que je me dis que je le saurais pas avant d'avoir un avis médical. Mais en fait, le truc aussi, c'est que je me souviens pas exactement d'à quel moment j'ai compris que j'étais dépressive. Je pense que c'est arrivé à 12 ans, parce qu'à 12 ans, il m'est arrivé des choses qui font que je pense qu'ils ont été vectrices de ça. Mais par contre, pour l'autodiagnostic en soi, le moment où vraiment j'ai commencé à me dire « je suis dépressive », je pense que c'était vers 14-15 ans. Et en fait, le truc, c'est qu'après, il y a eu des moments où j'ai un peu flippé, où je me suis dit « ça se trouve, c'est quelque chose d'autre ». Quelque chose de beaucoup, enfin, même si c'est lourd la dépression, mais autre chose de lourd, par exemple, de la bipolarité. Il y a eu un moment où je pensais être bipolaire, il y a eu un moment où je pensais être borderline aussi. Bon, j'ai jamais été diagnostiquée de ni l'un ni l'autre, et en fait, maintenant, avec du recul, je me rends compte que mes symptômes sont sans doute pas assez forts, ni même assez pertinents pour pouvoir me qualifier de ces troubles-là. Donc oui, c'est ça le problème avec l'autodiagnostic, c'est qu'en fait, une fois que tu es dans l'autodiagnostic, tu vas avoir tendance à vouloir à t'assimiler à plein de troubles, je pense.
Et pour revenir sur, encore une fois, les moments du diagnostic en tant que tel, est-ce que tu étais accompagnée avec, je sais pas, quelqu'un de ta famille, un ami?
Non, j'étais toute seule. Et en fait, j'avais pas particulièrement envie d'être accompagnée. En plus, c'était vraiment juste après le premier confinement, donc je pense que de toute manière, j'aurais pas eu le droit. Mais en fait, c'était quelque chose, je pense... Enfin, moi, sur ça, je suis quand même... Enfin, pour moi, par exemple, c'est une grande étape d'en parler comme ça. Parce que pour moi, c'est quelque chose de très intime. Et je sais pas si c'est de la honte ou pas. Je pense pas, même si je sais pas. Mais dans tous les cas, je pense que le fait d'être accompagnée, ça m'aurait juste bloquée. Donc non, j'étais toute seule.
Tout à l'heure, tu parlais du fait que... t'es notamment allé te faire diagnostiquer pour la question des médicaments, mais ça on y reviendra après. Mais à part cet aspect-là très médical, en fait, est-ce que le diagnostic a changé quelque chose dans ta vie?
Alors, je dirais que, malheureusement, parce que je pense qu'on ne devrait pas en arriver là, malheureusement, ça me fait une défense légitime. Dans le sens où, alors bon, je pense que déjà, socialement, dire qu'on est dépressif ou dépressive, c'est un peu compliqué parce qu'il y a énormément de gens qui s'imaginent que pour soigner la dépression, il faut juste faire du yoga et courir. Enfin, voilà. Donc, au moins, tu vois, là, je peux dire, écoutez, une psychiatre agrémentée m'a dit que j'étais dépressive. Donc, c'est un vrai trouble, une vraie maladie, on me l'a confirmé, c'est pas juste moi qui le dis, machin. Bon. Donc ça, ça change quelque chose. Après, en fait, moi, ce qui a changé principalement, c'est qu'à partir, en fait, le jour même où je me suis fait diagnostiquer, j'ai commencé mon traitement. Donc, c'est surtout le traitement qui a changé beaucoup de choses pour moi, mais vraiment qui a littéralement, je pense, changé ma vie. Par exemple, moi, je pense que sans ce traitement, je ne serais pas à l'ENS actuellement. Donc, c'est pas le diagnostic directement qui a changé grand-chose. Même psychologiquement, je ne suis pas sûre que ça ait changé grand-chose pour moi. Moi, le diagnostic, par un médecin, je veux dire, je le voyais vraiment comme un moyen pour une fin. Je le voyais pas comme une fin lui-même. Parce qu'encore une fois, même si paradoxalement je suis plutôt contre l'autodiagnostic, en fait, le fait que je sache déjà que c'était une dépression, en fait, j'avais juste besoin qu'il soit légitimé officiellement pour pouvoir ensuite faire les démarches pour aller mieux, quoi.
Et tout à l'heure, tu disais qu'il n'y a pas beaucoup d'amis et de gens de ta famille qui sont au courant. Est-ce que tu l'as quand même dit à des gens quand tu es sortie de ce rendez-vous-là ?
Je l'ai dit. Alors, je l'ai dit, je pense, mais je l'ai dit à ma meilleure amie, qui de toute manière le savait déjà et qui en plus elle sait très bien tout ce que c'est parce que elle a aussi malheureusement affaire à ce genre de problème. Je l'ai dit à ma tante parce que c'est la personne qui s'est beaucoup occupée de moi après le premier confinement avec qui j'étais parce que ça allait pas du tout avec mes parents et donc je lui ai dit. Et de toute façon elle suivait mes démarches et je pense qu'elle s'en doutait dans tous les cas et parce que en fait je savais que c'était une personne bienveillante et assez bienveillante pour ne pas me dire ah oui mais t'es sûre, ah oui mais machin, ah oui mais bon on sait pas, voilà, je l'ai dit en fait aux gens à qui je le sentais et je l'ai pas dit, enfin pour ma famille je l'ai pas dit à énormément de gens parce que je suis pas très proche des gens de ma famille en général à part cette tante là je l'ai dit aussi à mon cousin parce que mon cousin aussi connaît un peu, en fait je l'ai principalement dit à des gens dont je savais qu'ils allaient comprendre. Mais par contre, pour mes amitiés, c'est assez rigolo parce qu'en fait, la plupart de mes amis, je leur ai pas dit en sortant du psychiatre « Ah, je suis dépressive ». Bon, après, en même temps, voilà, je me suis mis à leur place, je me suis dit « Bon, est-ce que moi, j'ai... » Enfin, quand c'est ton ami, ou tu comprends, mais après, j'avais pas... J'avais pas envie de leur envoyer un message en mode « Au fait, je suis dépressive, comme ça, salut, bonne journée, tu vois ». Et du coup, ce que j'ai fait plutôt, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, j'ai informé mes amis. Mais quand j'en avais l'occasion, ce que je veux dire, c'est que souvent, c'était dans une conversation où on parlait déjà peut-être de quelque chose un peu semblable. Je leur disais, au fait, moi, je ne te l'ai pas dit, mais je suis dépressive, voilà. Parce qu'en fait, il y avait aussi quelque chose, c'est que j'ai quand même un peu de fierté. J'ai un certain ego et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, d'ailleurs, par rapport au handicap invisible, ou pas, d'ailleurs. Moi, je n'ai pas envie que les gens s'apitoient sur mon sort. J'ai pas envie que les gens aussi... quelque chose qui m'énerve aussi, c'est les gens qui comprennent pas ce que c'est et qui pensent savoir mieux que toi et qui pensent qu'ils savent comment régler ça. Typiquement, je caricature, mais les gens qui pensent qu'il faut faire de la méditation pour régler la dépression, qu'il suffit juste de se motiver, ça c'est ce que je déteste. Le truc de « Ah, mais juste, vas-y, bouge-toi ». Et j'avais des amis, tu vois, qui sont des très bons amis, hein, y a pas de problème, mais je les connaissais assez bien pour savoir qu'ils allaient peut-être réagir comme ça, même si c'était pas contre moi, c'était juste leur manière d'être, voilà. Donc, je l'ai dit à très peu de gens, et je l'ai dit juste aux gens dont je savais que leur dire allait me faire du bien, et pas juste me rajouter un poids de devoir gérer des préjugés, quoi.
Et je vais rebondir justement sur ce que tu dis sur le fait que c'est un handicap invisible et ce truc-là de souvent quand on parle de dépression, alors c'est le cas pour d'autres handicaps invisibles mais la dépression c'est assez visible je trouve, c'est un peu ironique, souvent il y a des gens qui en face de nous, de toi ne comprennent pas ce que c'est réellement et ils vont avoir justement cette idée et des remarques un peu désagréables, tu parlais du yoga, de la méditation, d'autres que voilà, je sais pas, du genre tout le monde est déprimé à un moment ou alors c'est juste une mauvaise passe, ça va passer. Mmh. Bon, dans la réalité on sait que c'est pas le cas. Toi même si t'as pas forcément été trop confronté à ça, est-ce que t'as quand même, est-ce que c'est quand même des choses que t'as pu entendre vis-à-vis de toi-même ou alors vu à la télévision, j'en sais rien. Et comment tu réagis? Est-ce que tu te mets en colère? Est-ce que tu expliques?
Alors, bon, ok, je vais prendre un exemple d'expérience qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps avec quelqu'un que j'estime énormément. Ça m'est arrivé cet été. Donc, bon, j'ai... Enfin, voilà, c'était avec un ami à moi, on va dire, qui à un moment m'a vu prendre mon traitement. Et puis, il me dit, ah, c'est quoi? Je lui dis, bon, bah, c'est mon antidépresseur. Je lui dis le nom de l'antidépresseur qui est connu pour être un truc quand même assez lourd. Même quand tu t'y connais pas trop en dépression, machin... En général, le nom de ce médicament, tu sais ce que c'est, tu sais que c'est quand même un truc où quand la personne prend ça, c'est qu'elle va pas très bien. Et en fait, sa réaction à lui, ça a été une réaction, c'est une réaction qui est pas agressive, au contraire, c'est une réaction de protection, c'est une réaction d'amour en fait. C'était de me dire, mais tu sais, les médicaments comme ça, faut pas les prendre, c'est pas bien. Parce que, enfin, je me souviens plus exactement ses arguments, c'était parce que l'addiction, parce que les médicaments, c'est mal de manière générale, il faut se traiter avec des plantes, enfin voilà, bref. Et du coup, ça l'a marqué, et en fait, il m'en a parlé plein de fois. Et puis au bout d'un moment, je lui ai dit, mais tu sais, en fait, le truc, c'est que sans ce médicament-là, bah, tu vois, j'aurais pu me... Là, je fais un petit point trigger warning au cas où les gens... Enfin, je vais un peu parler de suicide. Voilà, si vous voulez ne pas écouter, sans ce médicament là il y aurait peut-être eu un moment où je sais pas, je me serais jeté en dessous du métro, quoi, parce que bah concrètement il y a des moments où tu vas trop mal pour pouvoir faire autrement qu'avec des médicaments. Et puis là il était en mode non mais et c'est rigolo parce que lui-même était passé par un épisode dépressif, pas par un trouble dans le sens où pendant plusieurs années, mais par un épisode pendant 3 mois. Il m'a dit, mais tu sais, moi, quand ça m'est arrivé, bah, en fait, je me suis bougée, je me suis motivée, etc. Et je m'en suis sortie, parce qu'en plus, j'avais des amis qui étaient là pour m'aider, machin. Je lui ai dit, écoute, très bien, tant mieux, hein, je suis très contente que tu s'en sois sortie. Mais le truc, c'est que bah, parfois, c'est juste trop lourd pour que tu puisses faire autrement. Et du coup, voilà, à chaque fois, on en parlait. Et en fait, on n'avait pas du tout la même vision des choses. Et en fait, ce qui m'a un peu perturbée, c'est que j'aurais pu très bien dire, ah, mais de toute façon, il ne sait pas ce que c'est. Mais en fait... C'est ça le pire, c'est qu'il savait ce que c'était parce qu'il était déjà passé par là. Et donc, en fait, ce qui se passe quand on m'en parle, en fait, ça va dépendre de ma proximité avec la personne. Pour le coup, c'était une personne de qui j'étais très proche. J'avais envie d'être dans le dialogue et d'en parler parce que c'était aussi une manière pour nous de construire la relation dans le sens où t'apprends à mieux connaître l'autre. Mais après, honnêtement, par exemple, quand ça va être, je sais pas moi, des trucs beaucoup plus anecdotiques, entre guillemets, par exemple, des choses que je vois sur Internet, dans une vidéo ou quoi, ça va m'énerver. Mais je vais rien faire parce qu'en fait, je pense juste que pour le coup, c'est juste un manque d'empathie et un manque de compréhension. Donc, je suis dans le dialogue quand je sens que ça va être utile et quand je sens que la personne me respecte assez pour m'écouter. Et sinon, non, je perds pas ce temps-là parce qu'en fait, ça me pompe de l'énergie et au final, ça sert pas à grand-chose.
Et toujours pour continuer sur le côté invisible, tout à l'heure, tu parlais de légitimité, de ce que le diagnostic allait apporter en termes de légitimité. La dépression, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est visible physiquement. Est-ce que les gens te croient quand tu leur dis que tu es dépressive sans forcément leur dire que tu as eu un diagnostic?
Non, il y a des gens qui me croient pas. Et il y a notamment quelqu'un de ma famille qui est quelqu'un de très proche de moi qui ne me croit pas. Et honnêtement, alors en fait.
Même maintenant que la personne a le diagnostic?
Oui, okay. ouais. Parce que en fait, c'est une personne, et bon, ça, c'est une certaine génération aussi. Je pense pas que ce soit trop notre génération, parce que pour le coup, je pense qu'il y a vraiment une différence générationnelle sur ça. Parce que je pense que la nôtre, notre génération, enfin, je veux dire, les gens entre, je pense, 18-25 ans, on est beaucoup plus, déjà, c'est pas qu'on a plus d'empathie, mais disons qu'on est beaucoup plus informés sur ces sujets. Et la génération bah, de nos parents, en fait, parce que c'est un de mes parents, donc de 50-60 ans. Je sais pas ce qu'ils ont. Ils ont une sorte de blocage avec ça. Je sais pas. Faudrait en parler avec d'autres gens pour voir s'ils sont d'accord. Mais il y en a beaucoup qui. Je pense que comme c'était pas dans leurs habitudes de consulter des psychologues, il y en a plein qui sont anti-psy. Et du coup, même avec un diagnostic médical, donc quelque chose qui a littéralement, enfin c'est littéralement une preuve scientifique puisque cette personne est formée à diagnostiquer, etc. Et bah ils te croient pas parce qu'en fait, au final, ils croient pas trop. Je pense à l'existence de ces maladies. Ils se disent ah mais non. C'est quelque chose d'inventé. Je sais pas trop comment ils réfléchissent, mais effectivement, il y a, enfin, de ce que j'ai pu voir, en tout cas parmi les gens dont je suis, relativement proche, les personnes qui ne me croient pas, en général, sont en général des personnes pas mal plus vieilles que nous. Ça m'est pas trop arrivé avec mes amis, parce que, ou alors il y avait du dialogue et ils comprenaient. Mais en tout cas, oui, moi, la personne qui m'a le plus marqué, c'est quelqu'un de ma famille qui juste n'y croit pas et pense juste, je pense que c'est une phase, enfin, je sais pas trop.
Mais par exemple, est-ce que tu as déjà été face à des gens qui, avant que tu leur dises que tu étais diagnostiqué, ne te croient pas, et une fois que tu leur dis, bah, en fait, j'ai un diagnostic fait par un ou une psychiatre, et là, est-ce qu'ils t'ont cru, ou est-ce que, enfin, voilà, dans quelle mesure le diagnostic joue vraiment un rôle et permet, au, bah, comme tu dis, de légitimer et de faire en sorte que les gens te croient?
Alors, ça m'est jamais arrivé parce qu'en fait, bon, encore une fois, j'en parle pas non plus énormément. J'en parle surtout avant d'être diagnostiquée, j'en parlais pas beaucoup. Juste à mes amis, mais encore. Mais c'est vrai que par exemple, même parmi les personnes très bienveillantes à qui j'en ai parlé, il y en a une, après m'être fait diagnostiquer, du coup, après le confinement, là. Bon, je suis arrivée, je lui ai dit, bon, bah voilà, écoute, c'est officiel, je suis dépressive. Et la personne m'a répondu, mais encore une fois, je pense que c'était inconscient, c'était pas méchant, elle m'a juste dit, ah ok, c'est sûr, la psychiatre l'a dit. Enfin, je sais pas, enfin, ça peut paraître un détail, mais bon, encore une fois, l'autodiagnostic, voilà, je suis pas pour, mais même quand je l'avais pas eu, je le savais, je peux comprendre qu'on te dise, ah mais t'es sûr quand t'as pas eu de diagnostic officiel. Mais là, vraiment, je rentrais de chez la psychiatre, elle le savait parce que je lui avais dit, et dit, voilà, je lui ai dit, voilà, c'est officiel. Donc, sous-entendu, la psychiatre me l'a dit et elle a réinsisté. En fait, c'est un peu bizarre, c'est un peu comme si elle n'y croyait pas. Et je pense qu'en fait, c'était plus un élan empathique en mode, bon, est-ce que tu es sûr, est-ce qu'on est sûr que c'est vrai? J'espère que c'est pas vrai, parce que si c'est vrai, bah, c'est triste, quoi. Je sais pas trop comment expliquer ça. Enfin, je pense que c'est pas très clair quand je le dis, mais en fait, je pense qu'il y a ce truc peut-être aussi qui est assez humain, je pense, finalement, qui est plutôt signe d'empathie, paradoxalement, de se dire, bah, j'espère que c'est pas vrai, et du coup, je vais insister pour savoir si c'est vrai ou pas, parce qu'en fait, si c'est vrai, les gens ont cette vision de la dépression comme quelque chose de vraiment très lourd aussi, parfois, et donc, bah, forcément, quand tu tiens à quelqu'un, t'as pas envie que cette personne soit enfin, tu préférais qu'elle ne le soit pas, donc je pense que ça venait plutôt de ce sentiment-là. Mais sinon, non, j'ai jamais eu de... En tout cas, ça m'a pas marqué. J'ai jamais eu de moment vraiment marquant où j'ai dû insister pour prouver que je l'étais, à part bah, le cas que j'ai expliqué tout à l'heure. Mais en tout cas, à partir du moment où justement tu explicites le fait qu'un psychiatre a posé le diagnostic, moi, en tout cas, j'ai jamais eu de problème. Mais bon, encore une fois, j'en parle pas non plus énormément, donc mon échantillon est pas non plus hyper large, quoi.
Encore une fois, pour continuer sur la question de ce côté handicap invisible. Est-ce que tu as déjà eu l'impression d'être exclue à certains moments de ta vie, malgré le fait qu'il s'agit d'un handicap invisible, donc qui ne se voit pas? Ou est-ce qu'en fait, tu n'as jamais eu de problème d'intégration lié à ça?
Alors, j'en ai eu, des problèmes d'intégration, mais en fait, ce n'était pas la cause directe, dans le sens où, avec la dépression, bah, tu as aussi des problèmes de confiance en soi, des problèmes de vision de soi, voilà, donc des problèmes forcément dans les relations avec les autres. Donc je pense que ta question à toi, c'était plutôt est-ce que c'était des gens qui m'excluaient parce que j'étais dépressive ou... Bah j'ai pas... Non, franchement non. Mais par contre, c'était une exclusion... Plutôt, je pense que je m'infligeais à moi-même. Ou alors, encore pire, et ça, c'est ce qui m'est arrivé le plus souvent, une exclusion que je vivais à cause de cette maladie. Parce qu'en fait, les symptômes de cette maladie font que, au niveau social, parfois, c'est compliqué. Par exemple, je vais prendre un exemple, voilà, de la vie de campus, les soirées, rencontrer des gens, surtout en début d'année. Bah en fait, quand t'es dépressif, et en plus moi aussi j'ai de l'anxiété, donc pour l'anxiété, le diagnostic est un peu plus vague, parce que je sais pas si c'est l'anxiété sociale ou généralisée, mais en tout cas il y a un peu un côté social, c'est que parfois juste t'es angoissé à l'idée de rencontrer des gens. Il y a aussi par exemple cet été, quelqu'un que je fréquentais, à un moment qui m'a emmené quelque part, où je devais le rejoindre, sauf qu'en fait c'était un bar, et il y avait beaucoup de gens, donc des gens que je connaissais pas. Et en fait, juste, j'ai été incapable de rentrer dans le bar pour l'attendre. Parce qu'en fait, ça m'angoissait. J'ai commencé à m'imaginer des choses, à me dire « Ah mais non, je suis pas assez bien habillée, en plus, je les connais pas, donc ça va être gênant. » Enfin voilà, j'ai commencé à m'imaginer des trucs, je me suis assise sur le trottoir et je l'ai attendu. Quand il est arrivé, je lui ai dit « Écoute, je peux pas rentrer, enfin, c'est trop dur. » Bon, heureusement, cette personne a compris et tout, voilà. Mais tout ça, en fait, c'est pas les gens qui m'excluent. Enfin, je veux dire, je pense que... Enfin, moi, je crois en un peu la bonté des gens. Je pense que les gens, en général, sont quand même assez empathiques. Ils vont pas se dire... Enfin, en tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé, heureusement. Ah, elle est dépressive, c'est nul, quoi. Mais par contre, c'est ça qui est horrible. C'est même... Enfin, c'est pas pire, mais c'est encore... C'est très triste parce que du coup, encore une fois, c'est un combat contre soi-même. C'est se dire, bah, cette exclusion, c'est toi qui la provoque. Même si tu le fais pas consciemment, c'est ta maladie qui la provoque elle-même, en fait.
Donc là, depuis le début, je parle du handicap invisible, et si on a beaucoup parlé du côté invisible, j'aimerais bien revenir sur le côté handicap, et notamment vis-à-vis de ta scolarité, parce que t'es étudiante, c'est quand même un statut un peu particulier. Du coup, je me demandais si, quand t'étais plus jeune, donc typiquement au collège-lycée, donc à ce moment-là, tu savais déjà en toi que t'avais des troubles dépressifs, est-ce que t'as eu l'impression que ça t'a empêché de faire certains exercices, de réussir certains examens?
Non, au collège-lycée, non. Ça, non, parce qu'au collège-lycée, en fait, je pense qu'on est plein comme ça à l'ENS, mais moi, au collège-lycée, j'étais typiquement la nana qui travaillait pas, qui foutait rien et qui avait des super résultats. Et pour le coup, au niveau scolaire, en tout cas, même si au niveau social, pour le coup, c'est très différent, au niveau des relations en général, d'ailleurs, au niveau scolaire, au collège-lycée, ça m'a jamais posé problème. Ça m'a, par contre, c'est quand je suis arrivée dans les études supérieures, où vraiment, notamment la toute première année, où là, ça a été mais la catastrophe.
Et donc, du coup, est-ce que tu peux développer un peu genre, pourquoi ça a été la catastrophe? Parce que du coup, c'est la première année en prépa, j'imagine.
Ouais, alors en fait, le truc, c'est que moi, ce qui s'est passé, c'est que... Bon, là, je suis en master en philo. Mais en fait, avant de faire de la philo, j'ai fait des sciences dures. Donc, j'ai fait une année de prépa scientifique. J'ai fait un bac S et après, je suis partie en prépa en MPSI, en fait. Et parce que j'avais un rêve depuis plusieurs années, c'est que je voulais être astrophysicienne. Et en fait, quand je suis arrivée pendant cette année de prépa, bah, tout à l'heure, je disais que pendant le collège-lycée, bah, en fait, je foutais rien et que j'avais des très hautes notes. En fait, j'avais jamais appris à travailler. Donc, je suis arrivée en MPSI, machin, et je me suis rendu compte qu'en fait, les études supérieures, c'est pas du tout la même chose, surtout en prépa. Donc, il y avait beaucoup de travail et surtout, c'était très dur. Enfin, intellectuellement, c'était très dur pour moi. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai pas forcément encore beaucoup analysé, entre guillemets. J'ai pas compris toujours le pourquoi du comment, voilà. Mais je pense que ma dépression a énormément joué et c'est un peu accentué, enfin même beaucoup accentué, je pense, à ce moment-là. C'était une année où vraiment, pour le coup, s'il y a des degrés de dépression, je pense que j'étais en dépression sévère. Pour le coup, j'ai été très handicapée par le fait qu'en fait, j'avais une confiance en moi qui était, au ras des pâquerettes. Et je sais pas, en fait, je sais pas si la dépression a été un handicap au début, mais en tout cas, elle a été très forte. Et en fait, tout simplement, j'étais incapable de travailler. J'étais juste... c'est horrible parce que j'avais l'impression de juste être une feignante et tout, mais en fait, j'étais juste... C'est ce que je disais au tout début sur la force vitale, sur la mise en mouvement. J'étais incapable de m'y mettre. Parce qu'en fait, ça me paraissait tellement... énorme, mais là, en fait, tous les gens qui ont fait une prépa vont se dire « Non, mais ça va, enfin, je veux dire, c'est tout le temps la même chose en prépa. » Mais en fait, moi, j'avais vraiment cette impression de devoir constamment me battre contre moi-même. En fait, j'avais... ma dépression était comme une petite voix qui me disait « De toute manière, tu ne mérites pas d'atteindre ce rêve-là, donc tu ne mérites pas d'avoir les résultats que tu as envie d'avoir, c'est-à-dire à l'époque intégrer l'ENS en physique. » Donc, tu vas pas travailler parce que de toute manière, tu le mérites pas. Et c'est quelque chose qui m'a... C'est un peu une forme bizarre du syndrome de l'imposteur. Donc, encore une fois, peut-être qu'on peut se dire que c'est pas une question propre à la dépression, que c'est une question propre à la prépa. Bon, ça se discute, je pense pas. Et après, pour aussi d'autres raisons, la dépression m'a beaucoup handicapée. Parce que... parce que j'étais dans des relations qui n'étaient pas forcément très saines, etc. Mais en fait, pendant toutes mes années de prépa, parce qu'en gros, j'ai fait 4 ans de prépa, du coup, j'ai fait mon année MPSI, après je suis partie en hypocagne, j'ai fait une cagne, après j'ai cubé. Pendant toutes mes années de prépa, la dépression a été vraiment... Déjà, en prépa, c'est difficile. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement difficile pour tout le monde parce qu'on te demande des quantités de travail astronomiques. Je pense que ça... Enfin, quand on a fait une prépa, même de manière générale, on le sait. Mais quand, en plus, tu dois te taper ta dépression, qui le matin, des fois, il y avait des moments... Quand j'étais en prépa, je pouvais pas me lever pendant... Enfin, il y avait... Tous les ans, il y a eu au moins une semaine dans l'année où j'étais incapable de sortir de mon lit tellement j'allais pas bien, quoi. Tellement j'étais incapable d'affronter l'existence et le fait de devoir sortir pour aller en cours, ce qui ne m'arrivait pas au lycée ou au collège. Et du coup, oui, ça a été un handicap. Et c'est un handicap en plus qui arrivait vraiment pas au bon moment de ma vie, parce que c'est littéralement un des moments de ta vie, la prépa, où tu dois travailler le plus. Donc oui, ça a été un handicap. Et en fait, c'est à cause de... C'est pas exactement à cause de ça que je me suis réorientée, mais en tout cas... C'est aussi à cause de ça que ce rêve d'astrophysicienne que j'avais, bah, depuis que j'avais littéralement, depuis, je l'ai depuis que j'ai 8 ans, bah, j'ai dû le mettre de côté, quoi. Donc c'est aussi pour ça que c'est quelque chose qui me met très en colère. Je pense que parmi toutes les choses qui me mettent en colère par rapport à cette maladie, il y a surtout ça, en fait. Il y a surtout ce truc de... Bah, il y a eu quelque chose que j'ai dû abandonner, en fait, à cause de ça.
Et justement, je rebondis là-dessus. Donc, tu disais que tu avais ce rêve-là d'être astrophysicienne. Est-ce qu'il y a d'autres rêves, d'autres buts que tu avais en tête et qui ont été freinés, voire totalement empêchés de par ce trouble dépressif ?
Pas scolairement, non. Honnêtement, je dirais que c'est vraiment le truc qui a été freiné. Parce qu'après, quand je suis partie en philo, en fait, quand je me suis réorientée, bon, j'en profite un peu pour raconter ma vie, mais quand je me suis réorientée, en plus, je ne me suis pas du tout réorientée pour les bonnes raisons, mais bref, bah, là, je me suis rendue compte que j'étais vraiment dans mon élément. Et en fait, j'avais toujours envie de faire de la recherche, d'être prof, etc., mais en philo. Et en fait, du coup, je me suis dit, bah voilà, je vais essayer d'aller à l'ENS en philo. Bon, il s'avère que j'ai réussi à rentrer à l'ENS en philo. Mais en fait... Honnêtement, je pense que si j'avais pas réussi à rentrer à l'ENS, ça aurait été la deuxième fois qu'un de mes rêves m'est empêché à cause de ça. Parce que pour le coup, moi, mon principal obstacle quand j'étais en prépa, c'était pas vraiment les... Enfin, si, c'était les exigences intellectuelles, comme tout le monde, mais je veux dire, j'ai quand même fait 3 ans de prépa littéraire, au bout d'un moment, j'ai commencé à les comprendre, quoi. Non, mon principal obstacle, c'était la dépression. Et heureusement, j'ai réussi à avoir bah, ce but-là. Je sais pas si c'était un rêve exactement d'intégrer l'ENS en philo, mais en tout cas, mon rêve, c'était plutôt ce qui venait après, ce qui venait les déboucher. Donc, en fait, d'un point de vue, d'un point de vue logique, oui. Mais pour le coup, si je l'avais pas eu, ça aurait été la deuxième fois que ma dépression m'aurait empêché quelque chose. Mais en fait, c'est un peu une revanche aussi de. Enfin, ça veut pas dire que j'aime pas du tout la philo. J'adore la philo et je pense que je suis beaucoup mieux en philo qu'en physique d'ailleurs. Mais c'est un peu aussi une revanche, un peu une manière de dire à la moi de il y a 4 ans, écoute, bah, t'y es quand même, quoi. Et en fait, t'as été assez forte pour quand même avoir l'école que tu voulais, quoi. Donc ça veut pas dire que j'ai pas les boules de pas être astrophysicienne, de jamais, enfin je pense que je serai jamais astrophysicienne parce que je suis plus dans cette branche là mais je pense que de toute manière je suis mieux dans l'endroit où je suis maintenant. Et au final, bah, je sais que c'était pas ta question d'ailleurs de base, mais bref, au final, bah ouais, c'est un peu une revanche. Mais c'est vrai que t'as quand même ce côté, bah, mon rêve de y a 4, enfin de depuis que j'ai 8 ans, bon, j'ai une maladie qui fait que bah, j'ai pas pu l'atteindre. Mais après, en même temps, je suis tellement bien en philo et j'ai eu tellement d'autres opportunités, des moments de bonheur, des moments de plaisir, qui soient intellectuels, humains et tout, qu'en fait, au final, je me dis aussi que le fait que j'ai changé en MPSI de voie à cause de la dépression, c'est paradoxalement quelque chose qui m'a aidé à aller mieux, en fait. Donc c'est assez cool, quand même, je trouve, finalement.
Et parce que donc là, tu parlais de ce qui t'a potentiellement... empêcher d'atteindre certains buts, mais est-ce que tu as l'impression que avoir cet handicap invisible, et en particulier du coup le trouble dépressif, ça t'apporte des choses, que ce soit sur le plan scolaire, sur le plan émotionnel, intellectuel, social, ouais. Peut-être pas, enfin quoi que, je sais pas.
Bah honnêtement, alors honnêtement, je pense oui, mais en fait, j'ai pas envie que ça sonne pédant ou je sais pas. En fait, je pense que quand t'es dépressif, en fait, le truc c'est que c'est assez marrant, ça, j'en ai aussi parlé avec d'autres personnes, mais quand t'es dépressif depuis longtemps, c'est horrible aussi d'un côté, parce que t'arrives pas à savoir si la personnalité que t'as, c'est juste ta personnalité, ou si c'est en fait c'est ta dépression. Bon, après, le côté, est-ce qu'on a vraiment une personnalité, c'est une autre question, mais bon, bref, on va pas parler de ça. Mais en fait, je pense que ma dépression m'a apporté une sorte de sensibilité. Je pense que ça m'a apporté de l'empathie déjà. Je pense que parce que j'ai ça, j'arrive à bien comprendre. Je sais ce que c'est que d'avoir un trouble mental. Je sais ce que c'est que d'aller très mal. Je pense que si je suis féministe et si l'éco-social m'intéresse, c'est aussi grâce à ça, c'est aussi grâce à l'empathie que j'ai pu avoir grâce à ça. Je le vois aussi parmi mes amis, parce que malheureusement j'ai plusieurs amis qui subissent ça aussi. Du coup, ça m'aide à les aider en fait. Et ça, j'en suis reconnaissante, parce que comme ça je peux être là pour eux ou pour elles, parce que je comprends ce qu'ils vivent. Parce que parfois tu peux même pas l'expliquer, mais moi je comprends parce que je l'ai vécu aussi. Donc vraiment, je dirais que ouais, c'est une sorte de sensibilité. Je dis pas que tu peux pas l'avoir quand t'as pas été dépressive, mais pour le coup, en fait, paradoxalement, je suis quand même assez reconnaissante malgré malgré le fait que évidemment c'est très difficile de l'être et qu'il y a plein de moments dans ma vie qui ont été vraiment très difficiles à cause de ça. Comment dire, c'est pas que je regrette pas, parce que c'est pas ma faute si je le suis, mais en fait d'un côté je suis aussi contente de l'apport que cette maladie me donne en fait, de cette sensibilité, de cette empathie. Voilà, je suis assez contente. J'ai l'impression aussi en fait, enfin là pour le coup ça va faire très très meuf littéraire, mais j'ai l'impression que quand t'es dépressif comme ça, t'es aussi sensible à une certaine idée du beau en fait. Par exemple, moi je suis très portée sur tout ce qui est nostalgique, très mélancolique. Et je sais que d'un point de vue extérieur, les gens en général se foutent un peu de ma gueule, mes amis et tout. Je sais pas comment dire, mais c'est quelque chose dont je suis très fière. Je pense qu'on en reparlera quand je reparlerai d'un de mes livres préférés. Mais je suis aussi contente, voilà, c'est toujours une question de sensibilité, que ce soit au niveau de l'empathie, donc au niveau des autres, mais aussi une sensibilité au beau, à certaines œuvres et tout, parce que t'as énormément d'œuvres en fait qui parlent de ça. Par exemple, je pense que si j'aime le cinéma, c'est grâce à ça, parce qu'en fait, les œuvres de cinéma que j'aime sont des œuvres qui en général abordent ça, donc ça m'a donné l'amour du cinéma, ce qui est beau, je trouve.
Ouais, donc ça t'apporte une autre vision du monde. Est-ce que tu dirais que ça a aussi changé ta vision sur le handicap ? Parce que c'est ce que je disais dans mon introduction, c'est que souvent quand on parle du handicap, on imagine le handicap physique, la personne en fauteuil roulant. Et en fait, quand on est soi-même atteint, qu'on a un trouble, etc., ça peut modifier. Est-ce que toi, ça a été le cas ?
C'est le cas, mais en fait, c'est marrant parce que je m'en rends compte depuis pas longtemps, depuis quelques mois seulement. C'est que je suis beaucoup plus sensible... par exemple aux expériences de vie de personnes qui ont connu des obstacles à cause de leur maladie. Alors encore une fois, le mot handicap, pour moi le mot handicap, je l'ai jamais utilisé jusqu'ici pour ce que moi j'ai, en tout cas pour tout ce qui est mental. Pour moi c'était surtout physique, même si maintenant je pense que ça s'applique à tout, mais du coup c'est vrai que j'ai l'impression que ça m'apporte une sensibilité aux problématiques de maladie en général, quoi. Voilà, et d'ailleurs pour l'anecdote, il y a quelques jours, je me suis fait aborder dans Lyon par une association qui aide les enfants atteints de troubles psychologiques dans les hôpitaux à partir en vacances, enfin voilà. Et en fait, moi je suis comme tout le monde, je veux dire, bon parfois je m'arrête, mais en fait la plupart du temps, ce genre de choses, je passe un peu, j'écoute pas trop les associations malheureusement, parce que soit j'ai pas le temps, soit j'ai pas forcément assez d'argent pour leur donner, enfin bref. Et puis là en fait je me suis dit mais ces enfants là, enfin je peux pas dire que je les comprends parce que j'ai pas les mêmes maladies qu'eux, mais je sais pas, ça m'a particulièrement touchée en fait de me dire oui c'est vrai, ils ont déjà ce poids là, je vais un peu donner pour pouvoir alléger ce poids, quoi.
Et juste pour revenir sur la question du traitement, parce que c'est quelque chose dont tu as un peu parlé et je voudrais revenir dessus. Tout à l'heure tu disais que quand t'étais en prépa, le trouble dépressif t'empêche notamment de te mettre au travail. Est-ce qu'à partir du moment où tu as commencé à prendre ton traitement, donc des antidépresseurs, tu as pu mieux réussir à te mettre au travail ? Est-ce que ça a changé quelque chose sur ta concentration aussi ?
Ouais, ça a changé énormément de choses. Alors, après, moi, c'est un peu particulier parce que j'ai un double traitement. En fait, j'avais aussi un traitement pour anxiolytique, pour l'anxiété. Le problème, c'est que les anxiolytiques... c'est assez particulier quand même, c'est vraiment un truc, genre tu le prends, vraiment tu t'endors, quoi. Donc en fait moi je combinais les deux. Au bout d'un moment, j'ai compris qu'en fait la psychiatre m'avait peut-être mal, m'avait peut-être donné un traitement qui convenait pas trop, parce que c'était surtout un traitement pour dormir. Sauf que du coup, pour travailler, c'était pas ouf. Donc, effectivement, d'un côté, les antidépresseurs m'aidaient énormément, même pas pour la concentration un peu, mais surtout pour vraiment s'y mettre, quoi. Et ça, ça changeait tout pour moi, quoi, parce que moi, mon problème, c'était pas de me concentrer, c'était pas de comprendre, c'était pas de travailler pendant 2 heures, c'était juste de m'y mettre. C'était vraiment ça le problème. Et vraiment, ça m'aidait à me dire, voilà, maintenant tu t'y mets, tu mérites de travailler pour avoir ce que tu veux, tu t'y mets quoi. Mais bon, le problème, c'est qu'il y avait les anxiolytiques qui contrebalançaient un peu ça, donc parfois ça a été un peu compliqué d'équilibrer les deux. Mais vraiment, moi je suis, c'est pour ça que quand j'entends des gens qui me disent que les antidépresseurs, c'est pas bien, enfin franchement, moi les antidépresseurs, ça a littéralement changé ma vie, dans le sens où ça a changé mon parcours scolaire. Et du coup, ça m'a permis d'intégrer une école qui va me donner des opportunités que d'autres formations ne m'auraient pas données. Et donc, je considère qu'effectivement, oui, ça a changé beaucoup de choses pour moi. Et je suis très contente d'avoir ce traitement. Enfin, même aujourd'hui, en fait, en plus, il y a eu pas mal de fois où je ne l'ai pas pris pendant plusieurs jours parce que je me suis mal organisée et que j'avais plus de mes médicaments. Et la différence que je ressens, mais elle est incroyable. Enfin, je veux dire, quand je les reprends, alors que j'ai arrêté un peu, je ressens, enfin c'est même pas une joie de vivre, c'est juste une force un peu de faire des choses quoi. Et je me souviens, il y a eu un truc qui m'avait choquée, j'en avais parlé avec une amie qui pareil aussi prenait le même traitement, donc elle pouvait comprendre. Quelques semaines après avoir commencé mon traitement, parce que les premières semaines sont très difficiles par contre, mais quelques semaines après avoir commencé, quand vraiment t'as la sérotonine qui est absorbée par ton cerveau, enfin que tout va bien, il y a eu un moment où en fait juste j'étais là dans un salon et puis enfin dans le salon d'une personne de ma famille et puis c'était un peu le bazar et tout et je me suis dit vas-y je vais un peu faire le ménage et je me suis mise à faire le ménage et en fait et j'étais là mais je me suis dit mais ça m'arrive de faire le ménage mais ce que je veux dire c'est que quand t'es dépressif enfin en tout cas moi ça m'arriverait très rarement de juste me lever et de me dire vas-y je vais faire ça là ça y est faut que je m'y mette. Et là, j'ai fait le truc direct, j'ai commencé à faire le ménage, machin, hyper énergique et tout. Et j'ai dit à mon amie, mais c'est incroyable, meuf, j'ai fait le ménage comme ça, en 10 minutes, je m'y suis juste mise. Et pour moi, c'était quelque chose d'incroyable. Enfin, ça paraît bête, hein, mais c'était quelque chose d'incroyable de juste me dire, je vais faire ça, je le fais tout de suite. Non, enfin, moi, avant, c'était juste, je vais faire ça, je mettais des heures à le faire, si je le faisais. Donc, ouais, moi, les médicaments, vraiment, je suis hyper reconnaissante d'avoir ça, quoi.
Oui, puis c'est vrai que tout à l'heure, tu as dit une phrase assez forte. Tu disais, sans ce traitement, je ne serais pas à l'ENS.
Oui.
C'est quand même fort.
Après l'ENS, je pense. Enfin, je suis très contente d'être à l'ENS parce que c'est ce qui va me donner les débouchés pour faire tout ce que je veux. Après, si ça se trouve, peut-être qu'il y aurait eu telle ou telle circonstance qui font que je l'aurais intégré, machin. Mais moi, la manière dont je le vois, c'est que ce traitement m'a donné la force de pouvoir faire les démarches que j'ai faites pour pouvoir intégrer l'école. Bon, si ça se trouve, j'y serais quand même si j'avais pas eu ce traitement, mais honnêtement, je pense pas du tout. Je pense juste quand je vois. En fait, c'est juste que moi, comme j'ai eu 2 années où j'ai passé le concours, j'ai une année où j'étais pas sous traitement et une année où j'étais sous traitement. Et mais la différence, c'était. Mais la différence, c'est incroyable. Donc, si je compare ces 2 années-là, et l'année de CUP, c'était celle où j'étais sous traitement et celle où j'ai intégré, j'aurais jamais pu intégrer sans traitement, quoi, parce que j'aurais jamais eu la force de faire tout ce qu'il faut. Enfin, toute l'énergie qu'il faut produire pour pouvoir avoir un concours comme ça, quoi.
Et maintenant que tu es à l'ENS, donc tu continues à prendre un traitement, est-ce qu'en plus tu as des aménagements qui sont mis en place par l'école, par la scolarité, pour que tu puisses... Enfin, je sais pas, pour que...
Non, pas du tout. Je sais, enfin, ça doit même pas être écrit dans mon dossier ou quoi. Je sais même pas comment ça se passe pour les aménagements, tu vois. Par contre, ce qui se passe, c'est que moi, au début de l'année, ça a été... Enfin, on est toujours au début de l'année, mais... Les premières semaines ont été assez difficiles pour moi. Je ne sais pas si c'est de la dépression ou de la déprime post-prépa ou les deux. Je pense que c'est les deux. Mais il y a vraiment eu un moment où j'avais beaucoup de mal à aller en cours. Il y a beaucoup de cours que j'ai arrêtés entre-temps parce que juste j'avais pas l'énergie de pour pouvoir... Enfin, je ne pouvais pas produire assez d'énergie pour les valider. Donc à chaque fois, j'envoyais un mail au prof. Écoutez, voilà, je suis désolée, ma santé mentale fait que... ce qui était assez... Ce qui est assez difficile d'ailleurs, je trouve. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis suivie par un psy qui m'a carrément expliqué qu'en fait, pour le coup, si ça continuait comme ça, je pouvais avoir un aménagement. Bon, c'est-à-dire un arrêt de travail. Je ne sais pas si on peut appeler ça un aménagement, mais bon. Mais du coup, oui, c'est quand même quelque chose... Mais c'est quelque chose qui m'a fait bizarre aussi, parce que je me suis dit quand même, j'ai fait tout ça, je suis quand même dans cette école. tout ça pour qu'en fait au final ce soit aussi difficile, bah c'est quand même assez déprimant quoi. Bon, ça va un peu mieux, mais non, j'ai pas d'aménagement. Mais après, en fait, le truc c'est que j'ai pas fait savoir particulièrement non plus que j'avais ça. Puis je sais même pas comment ça se passe dans le cas de la dépression, je sais même pas s'il peut y avoir des aménagements, je sais pas en quoi ça consisterait quoi. Donc non, j'ai rien de particulier.
Et peut-être pour terminer sur quelque chose d'un petit peu plus joyeux, est-ce que tu aurais une recommandation d'ouvrage, que ce soit littéraire, filmographique, soit qui t'a aidé ou qui t'a touché par rapport à ta situation ?
Alors il y en a énormément en vrai, il y en a beaucoup, surtout des films et des séries. Mais en fait moi c'est mon livre préféré de tous les temps, on va dire, c'est Alcool d'Apollinaire. Et en fait, tout à l'heure, je parlais de ce que la dépression peut t'apporter comme sensibilité. Je pense pas... Alors, heureusement, je pense qu'on n'a pas besoin d'être dépressif pour apprécier D'Alcool d'Apollinaire, parce que, de toute manière, c'est une œuvre incroyable. Voilà. Mais c'est une œuvre que j'ai découverte quand j'étais au lycée. Bon, déjà, c'est grâce à cette œuvre, je pense, que j'ai fait des études littéraires. Mais bon, c'est autre chose. Mais en fait, c'est une œuvre, quand tu la lis... Bon, Apollinaire était clairement dépressif, je pense. Quand tu la lis, ça résonne tellement en toi, quand t'es atteinte de ce trouble-là, que c'est à la fois... T'as une sorte de tristesse. Et en même temps... en fait, par exemple, moi, j'ai une... Quand je suis... Parce que je vais souvent sur Paris. Quand je vais à Paris, j'ai mon petit rituel, qui est d'aller voir la tombe d'Apollinaire au Père-Lachaise, au cimetière du Père-Lachaise. Et en fait, je fais ça parce que je trouve ça incroyable de lire quelque chose de quelqu'un d'il y a 100 ans, d'il y a un peu plus de 100 ans, qui en fait clairement savait ce que c'était que d'aller mal. Bon, tout le monde sait ce que c'est que d'aller mal, mais pour le coup là c'est très clair, j'ai pas la prétention de pouvoir écrire ces mots-là, mais on dirait des mots qu'on aurait pu écrire. C'est une œuvre que j'aime beaucoup parce que c'est une œuvre qui met en parole cette mélancolie permanente de quand t'es dépressif, même si tout le monde vit sa dépression différemment. C'est pas du tout une question de, je veux pas du tout romantiser la dépression, c'est pas ça, mais moi en fait c'est une expression artistique de la tristesse qui me touche énormément. C'est un livre que j'ai lu je sais pas une bonne vingtaine de fois, c'est un livre que j'adore, et c'est un livre aussi qui m'a permis de voir la beauté dans plein de choses. Enfin par exemple, je sais pas, l'autre jour j'étais dans un cimetière, dans le cimetière du Père-Lachaise, je me suis assise et j'ai pleuré parce que je trouvais ça très beau. Je veux dire, ça paraît bête, parce que souvent je le dis à mes amis, ils me disent « Comment ça, t'es le cimetière, qu'est-ce qui t'arrive ?» et tout. Je dis « Mais les cimetières, c'est magnifique, et je sais que c'est grâce à ce livre aussi, parce qu'il parle de ça, il parle de plein d'autres choses. » Donc, voilà, encore une fois, pas besoin d'être dépressif pour aimer Apollinaire, heureusement. Mais vraiment, ce livre, c'est aussi un livre en fait que souvent j'ai envie de faire lire aux gens dont je suis proche, avec qui j'ai envie de partager vraiment une intimité, parce que j'ai aussi l'impression que ça met tellement bien en parole la tristesse et la mélancolie que en fait parfois je me dis que c'est plus simple que ces personnes lisent ça pour un peu me comprendre plutôt que j'essaie de leur expliquer. Donc voilà, après il y a énormément de choses, je pense que dans les films aussi il y en a plein, mais c'est pas du tout la même manière de représenter la dépression. Mais si je devais recommander une œuvre, je dirais celle-là.
Merci beaucoup Léna pour d'une part avoir répondu à mes questions et d'autre part d'avoir fait ce don d'intimité. Chers auditeurs et auditrices, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. C'était En Différence, l'émission consacrée au handicap invisible, diffusée sur Transistor et produite par Marie Brunière.